Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur les ondes de Radio MDM. Nous sommes le mardi 3 mars et à moins de 15 jours du premier et unique tour des élections municipales à Saint-Sever, nous vous proposons aujourd'hui et jeudi une interview des deux candidats. On commencera aujourd'hui avec Olivier Martinez, actuellement conseiller municipal et chef de file de l'opposition, vice-président du département et tête de liste de Changeons pour un meilleur cap. Et c'est d'abord à cette liste que nous allons nous intéresser. Pourquoi avoir fait le choix d'une liste sans étiquette ?
Aujourd'hui, on est sur une élection municipale. J'ai des colistiers, des groupes de travail avec des personnes qui sont de tous horizons, professionnels, culturels, politiques. Donc c'est compliqué pour moi d'avoir une liste qui soit affichée par rapport à un parti politique. Après, à titre personnel, tout le monde le sait, moi je suis au Parti Socialiste, mes colistiers le savent. L'ensemble des personnes qui ont travaillé à l'élaboration du projet et du programme sont informées de ça. Mais moi, dans ma liste, on trouve tout l'éventail politique qu'on peut rencontrer aujourd'hui à Saint-Sever. Donc ça me paraissait compliqué de mettre une étiquette politique sur ma liste.
Comment cette liste aux larges horizons influe-t-elle sur le programme et quelles en sont les grandes lignes ?
Alors aujourd'hui, déjà, la première chose, c'est que la plupart des personnes donc, qui ont travaillé au programme sont des personnes qui, pour beaucoup, sont spontanément venues se présenter à moi afin de vouloir participer donc, à l'élaboration du projet que je souhaitais porter. Alors, ce n'est pas le tout de vouloir venir et puis participer à l'élaboration du projet. On s'est vite rendu compte qu'on partageait le même diagnostic par rapport à ce qui s'était fait et ce qui se faisait, en bien ou en moins bien au niveau de la ville ces 6 dernières années. Et au-delà de ça, lorsqu'on a posé les grandes lignes directrices du futur programme, on s'est rendu compte qu'on avait quand même une communion d'intérêts, toutes et tous, pour mettre en avant des grandes idées forces, hein, puisque les deux idées forces qui sont sorties des premiers échanges que nous avons pu avoir et qui ont été la base de l'élaboration du programme, c'était avant tout une démarche environnementale incitative et une démarche qui était avant tout et surtout posée sur les solidarités. Donc la solidarité, la démarche environnementale ont été les deux grandes lignes directrices qui ont permis donc la réalisation des 86 propositions que nous allons mettre dans notre programme et qui, je l'espère, emportera l'adhésion le 15 mars prochain.
On va donc s'intéresser à ces deux thématiques phares du programme de la liste Changeons pour un meilleur cap, le volet environnement dans un premier temps.
Quand on parle de démarche environnementale comme une idée force, on a souhaité avant tout et surtout s'engager dans une démarche environnementale qui ne soit pas punitive, mais incitative. On est parti du constat qu'au niveau local, on pouvait, par une sorte de politique des petits pas, proposer des projets qui puissent emporter l'adhésion de tous. On a souhaité avant tout et surtout proposer la mise en œuvre d'un agenda 21. L'agenda 21, c'est une méthodologie qui permet de pouvoir mettre en œuvre toutes nos politiques à l'aune de la problématique environnementale, que ce soit en matière d'aménagement des espaces publics, en matière de solidarité, en matière d'amélioration du quotidien des Saint-Séverins. Donc tout a été mis en œuvre de manière à ce que, voilà, on ait cette politique des petits pas positive qui soit incitative. Des exemples concrets, nous souhaitons mettre en œuvre un cadastre municipal solaire qui permettrait aux Saint-Séverins de savoir s'il est intéressant pour eux de mettre en place des panneaux solaires ou non sur leurs habitations. On a souhaité mettre en œuvre des dispositifs d'accompagnement financier pour des récupérateurs d'eau de pluie. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est quand même des sujets importants. On a la mise en place de centrales photovoltaïques portées par la collectivité. Nous souhaitons aujourd'hui mettre en œuvre des ombrières sur des places de stationnement, de manière à ce que nous puissions produire de l'énergie photovoltaïque, de l'énergie renouvelable pour la commune. La démarche sera également entreprise au niveau du quartier d'Augreil, puisque nous avions une problématique à surmonter qui consistait à satisfaire une demande récurrente et à ce jour insatisfaite de la part du comité des fêtes, à savoir la création d'un bâtiment pérenne sur le site d'Augreil pour notamment maintenir des activités festives, sportives ou de lien social. Donc on a souhaité mettre en place un bâtiment qui lui aussi accueillerait des panneaux solaires qui seraient portés par la collectivité. Donc à la fois inciter les personnes à s'engager dans cette démarche, mais avoir une collectivité exemplaire qui, elle aussi, fasse les mêmes démarches en parallèle, puisque pour qu'une politique soit convaincante, il faut que déjà la collectivité qui les impose soit aussi, elle, de son côté, totalement irréprochable en la matière.
L'interview étant plus longue que le temps dont nous disposons ici, je prendrai quelques secondes pour ajouter que la liste Changeant pour un meilleur cap souhaite, dans sa démarche environnementale, remettre en place le ramassage des déchets verts et encombrants, une précision en prévision d'une des idées qui sera abordée dans les minutes à venir, puisque nous évoquons tout de suite le volet insertion.
Alors, au niveau de l'insertion, il faut savoir que nous souhaitons mettre en œuvre sur le territoire un dispositif qui existe maintenant depuis plusieurs années, le dispositif Territoire zéro chômeur de longue durée. C'est un dispositif qui est porté, donc, comme je le disais, maintenant au niveau national depuis 2016, si ma mémoire est bonne. C'est tout simplement être en capacité d'identifier sur notre commune les personnes les plus éloignées de l'emploi. Dès qu'on les a identifiées, avec le concours bien évidemment de l'ensemble des acteurs institutionnels qui ont des compétences en matière d'emploi et d'insertion. Le but, c'est d'être en capacité de leur faire un bilan de compétences. Parallèlement à ce bilan de compétences, c'est de savoir identifier sur notre commune quels sont les besoins au plan économique qui ne sont pas satisfaits, qui n'entrent pas en concurrence avec des sociétés privées qui travaillent déjà dans ces domaines, et d'être en capacité de mettre en adéquation ces chômeurs de longue durée pour leur faire faire ce travail qu'aujourd'hui, personne ne fait au plan privé. Pas de concurrence, mais une démarche de réintégration des personnes au niveau de l'employabilité. C'est un dispositif qui fonctionne bien, qui est parfaitement adapté aux territoires ruraux. J'ai rencontré le directeur territorial de Pôle emploi, M. Dartigol. J'ai rencontré sa directrice adjointe pas plus tard que vendredi dernier. D'ores et déjà, si nous avons la chance d'être élus le 15 mars prochain, nous savons que notre territoire sera prioritaire pour mettre en œuvre ce dispositif qui, à l'heure où on se parle, n'est pas encore mis en place dans le département des Landes. Donc nous souhaitons avoir une gestion active de l'emploi, c'est-à-dire remettre le pied à l'étrier à des personnes durablement éloignées de celui-ci. En matière d'insertion également, et ça je l'ai, j'ai là aussi rencontré le président d'une association d'insertion de Saint-Sevé avec qui j'ai évoqué le sujet. J'avais évoqué avec lui, bien entendu, la problématique du territoire zéro chômeur de longue durée, mais j'ai souhaité lui proposer, s'il en était d'accord, avec peut-être d'autres associations d'insertion. Déjà, on parlait précédemment du ramassage des encombrants et des déchets verts. Les associations d'insertion peuvent faire ce genre de travail. Et si nous trouvons le véhicule juridique pour le faire, ce seront des associations d'insertion qui, en priorité, feront cette démarche de ramassage des déchets verts encombrants. Autre élément important, là c'est en matière d'investissement, on souhaite, et c'est un de nos projets dans notre programme, réhabiliter l'escalier de la gare. L'escalier de la gare qui est un monument assez emblématique de Saint-Sevé puisqu'il fait la jonction entre l'ancienne gare de Saint-Sevé et la ville haute. Et on souhaiterait que ces travaux d'investissement et de réhabilitation et de rénovation soient faits dans le cadre d'un chantier d'insertion. Donc c'est une opération assez importante, mais on pense que ça peut être quelque chose de valorisant, là aussi, pour des personnes qui sont dans cette démarche d'insertion, avec les associations, bien évidemment, qui les accompagnent. Donc, c'est un projet d'investissement que nous prioriserons en la matière si nous sommes élus.
Donc, ça veut dire que là, ce serait la municipalité qui mettrait en place un chantier d'insertion pour...
Tout à fait. Chantier d'insertion, exactement. Et d'autant plus que ce chantier, l'escalier de la gare, ça peut paraître anecdotique, mais on s'engage déjà dans une démarche où on se met en perspective par rapport à la future création de voies vertes qui est prévue entre Mont-de-Marsan et Saint-Sevé, puisqu'elle a vocation à rejoindre la voie verte de Dax, qui part du quartier d'Augreil vers Dax, et plus loin, du quartier d'Augreil vers Ajetmo. Ces voies ferrées, puisque c'est une emprise ferroviaire qui appartient à SNCF Réseau, vont être cédées au département cette année. D'ores et déjà, nous, au conseil départemental, nous avons voté les modalités d'acquisition et les premiers financements pour la dépose des voies ferrées, du ballast, des traverses de chemin de fer, avec l'objectif 2021 de finaliser la création de cette voie verte, qui passera donc à l'ancienne gare, et l'escalier de la gare, pour ceux qui utiliseront cette voie verte, et la voie la plus courte pour monter à la ville haute. Donc ce chantier d'insertion, il est important parce que ça permettra de valoriser le travail de personnes qui sont en difficulté au niveau de l'emploi et qui revêt une importance touristique majeure pour Saint-Sevé, puisque nous, on veut, pour les usagers de cette future voie verte, les inciter à prendre cet escalier pour aller en centre-ville. C'est la voie la plus courte. Donc c'est le pari que nous prenons. Nous demanderons à la communauté de communes qui a la compétence tourisme de nous accompagner au niveau de la signalétique touristique, de manière à ce que les gens soient invités à monter en ville. Mais donc, c'est un pari qu'on prend et je pense que c'est un bon pari.
Un dernier point sur le contenu du programme. Saint-Sevé étant une commune rurale, le programme Changeons pour un meilleur cap aborde-t-il l'aspect agricole ?
En matière agricole, nous avons la chance à Saint-Sevé d'être propriétaires de plusieurs hectares de terres agricoles qui aujourd'hui ne sont pas cultivées. Elles sont situées sur la route de Montsouet, au lieu-dit Saoubière. Sur ce site, nous pensons qu'il est important pour nous d'y installer de nouveaux agriculteurs et plus particulièrement des agriculteurs pratiquant du maraîchage. Pourquoi ? Il faut savoir qu'en matière de restauration collective dans les cantines, la loi Egalim de 2018 nous impose, dans quelques temps, 50% de produits en circuit court et 20% de produits bio. Ce sont des objectifs extrêmement audacieux et nous pensons qu'il faut saisir cette opportunité pour justement réorienter ces terres agricoles vers la production légumière, végétale ou autre, au profit de nos cantines, que ce soit pour nos enfants dans les écoles, mais également la maison de retraite, l'EHPAD, qui lui aussi utilise les services de la cuisine municipale de Saint-Sevé, de manière à ce que nous puissions assurer une production locale de qualité au profit des Saint-Séverins. Cette démarche est audacieuse, mais nous pensons que c'est le sens de l'histoire. Nous préférons avoir des produits qui viennent de notre commune pour que nous puissions avoir l'assurance de la qualité de ces derniers. La superficie des terrains en notre possession nous permet d'installer un voire deux maraîchers sur le site, ce qui permettra vraiment de sécuriser les approvisionnements. Au-delà de la qualité des produits, c'est aussi un moyen pour nos enfants, notamment, de retrouver un peu de saisonnalité aussi dans les assiettes, parce qu'il est important aussi que ces produits-là, au-delà du goût, soient respectueux du cycle des saisons. Donc c'est pour ces quelques éléments-là, et il y en a d'autres, que nous avons souhaité mettre en place ce maraîchage municipal. Autre élément important dans la politique que nous souhaitons mener en matière agricole, c'est de pouvoir aussi s'intégrer dans une démarche d'identification des terres agricoles non cultivées actuellement. Car nous pensons que il est du rôle de la collectivité, de procéder au rachat de ces terres et de les proposer à de nouveaux agriculteurs qui souhaiteraient s'installer sur notre commune. Ces 15 dernières années, seulement deux agriculteurs se sont installés à Saint-Sevé. C'est trop peu. Nous sommes une commune rurale, nous devons en être fiers. Et nous pensons qu'il est du devoir de la commune de participer à la réactivation de l'installation de nouveaux agriculteurs sur notre territoire.
Revenons maintenant à l'aspect pratique. Comment ce programme a-t-il été construit ?
Alors, la construction, c'est du rebond dans la réflexion. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est-à-dire que quand on pose une problématique, on trouve une solution ou on essaye de trouver une solution pertinente à la problématique posée qui elle-même ouvre des champs du possible sur d'autres perspectives et on rebondit dessus. Et à la fin, on se rend compte que le programme est tout en cohérence puisque finalement nous tournons sur ces deux idées forces, la problématique des solidarités et la problématique de l'environnement, une démarche environnementale, je le répète, incitative. Tout est lié. Alors moi, bien évidemment, j'ai sollicité des personnes, beaucoup sont venus spontanément donc me proposer leur service. J'ai été agréablement surpris parce que j'ai découvert des personnes que je ne connaissais pas particulièrement, voilà, mais qui ont une vie, on va dire, à Saint-Sevé, de parents d'élèves, une vie associative ou autre. Et je trouve que c'est intéressant parce que, au-delà de la jeunesse de la liste, hein, puisque les premiers groupes de travail, on s'est retrouvé à 40 personnes à travailler dès le mois de septembre 2019. On balayait vraiment toutes les catégories socioprofessionnelles, toutes les cultures, toutes les générations. Et on s'est vraiment retrouvé sur des bases communes, vraiment. Quand je dis qu'on a posé un diagnostic commun, on n'a pas mis deux heures pour tout de suite mettre sur la table la manière dont on appréhendait la ville, ses qualités et ses manques. Et bien évidemment, ce qu'on regrettait au niveau du fonctionnement quotidien de la municipalité en place depuis 6 ans. Donc, ça s'est fait assez naturellement. Alors, le Benjamin du groupe de travail a 20 ans, la doyenne a 67 ans. Donc, c'est vrai que là, chacun amène par rapport à sa culture, par rapport à son vécu, des choses qui sont complètement différentes. On a des parents, on a des personnes qui sont grands-parents. Bon, chacun est en capacité, voilà, d'apporter sa pierre à l'édifice. Et ce qui est remarquable, c'est que nous sommes partis à 40 et nous sommes arrivés à 40. C'est-à-dire que, naturellement, j'oserais dire, on a trouvé un périmètre d'évolution dans lequel tout le monde se sentait bien. Il n'y a pas une personne qui a dit « Écoutez, moi, je ne me retrouve pas dans le diagnostic ou dans la manière dont sont portés les projets et la manière dont on souhaite proposer des choses pour les 6 prochaines années. » Voilà. On est parti à 40, on est arrivé à 40. Même si toutes, quasiment, voulaient aller à la bataille au niveau des municipales, ceux qui ne sont pas aujourd'hui sur la liste l'ont parfaitement compris. Il n'y a aucune ambiguïté dans nos relations. Elles sont toujours présentes, elles participent toujours à nos réunions, puisque nous faisons encore et toujours des réunions. On en est à 15 ou 16 aujourd'hui, hein, depuis 6 mois et demi maintenant. Parce que moi, je ne souhaitais pas mettre 27 personnes autour de la table et après réfléchir au projet. On fait déjà le diagnostic ensemble, on fait le projet, et après seulement, on sort 27 personnes pour aller porter ce projet. Pourquoi ? Parce que pour être convaincant auprès des Saint-Séverins dans une campagne électorale, il faut que les candidats soient eux-mêmes convaincus. Et pour être convaincu, il faut qu'ils aient participé au plus profond d'eux-mêmes à l'élaboration du programme. Aujourd'hui, ces gens-là sont intimement convaincus que ce qui est proposé est la meilleure des choses qui soit pour Saint-Sever ces 6 prochaines années. Et parce qu'ils sont convaincus, ils sont convaincants auprès de ceux qui les interpellent par rapport à notre programme. Et ça, c'est extrêmement important. Faire l'inverse, c'est-à-dire trouver 27 personnes puis réfléchir, c'est une mauvaise méthode.
Et très concrètement, comment ce programme va s'appliquer ?
Alors très concrètement, la mise en œuvre du programme. Alors le choix qui a été fait, nous concernant, l'équipe hein, de Changeons pour un meilleur cap, c'est d'avoir bien évidemment un maire. Nous avons souhaité d'avoir 8 adjoints, parce que c'est le maximum, mais nous l'assumons, déjà parce qu'il y a beaucoup de travail dans une ville. Il y a énormément d'interventions à faire, énormément de demandes à satisfaire. Et comme le programme est assez conséquent, il y a plus de 80 propositions. 8 personnes motivées ne sont pas de trop pour, au quotidien, pendant 6 ans, porter ce programme. Autre élément important, ça c'est parti d'un diagnostic qui a été partagé et par nous en interne, mais également par rapport au retour qu'on a pu avoir avec les échanges avec la population et les associations, c'est qu'on a essayé de renouer le lien entre la municipalité et les quartiers. Puisqu'on s'est rendu compte que, je le dis en réunion publique, je le dis avec une certaine pudeur, il y a comme qui dirait une certaine incompréhension mutuelle aujourd'hui entre la municipalité, le monde associatif et la plupart des citoyens Saint-Séverins. Nous, on a conscience de la difficulté d'assurer au quotidien ce lien avec chacun d'entre eux. On ne prétend pas être parfait, mais nous pensons que la solution que nous allons proposer en la matière permettra de limiter, on va dire, les difficultés et les problèmes, s'il y en a, c'est de mettre en place 4 conseillers municipaux délégués territoriaux qui seront identifiés géographiquement dans chacun des quartiers de Saint-Sever. Nous aurons un conseiller municipal délégué pour le quartier de Sainte-Eulalie-Perret, un pour le quartier d'Augreil, et 2, un pour le cœur historique et un deuxième pour les quartiers périphériques urbains au niveau du centre-ville. On pense que ces 4 relais seront des relais efficaces pour éviter voilà, ces incompréhensions mutuelles qu'on a pu constater ces 6 dernières années. Et parce qu'on s'est là aussi rendu compte que c'était un peu une zone grise dans la réflexion de l'ensemble des candidats, quelles que soient les communes, on réfléchit là à mettre en place aussi un conseiller délégué à la jeunesse pour porter les attentes, les besoins et les souhaits des 18-25 ans. Nous adosserons certainement auprès de ce conseiller délégué à la jeunesse, un conseil municipal de la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, il y a un conseil municipal classique, il y a un conseil municipal d'enfants et de jeunes, mais qui c'est 6-13 ans, mais entre les deux, il n'y a rien. Il n'y a pas de réponse institutionnelle pour la jeunesse. Et on pense que c'est important. C'est aussi un élément pour réconcilier la jeunesse avec la politique locale. Donc, un élu référent jeunesse, auquel on adosse un conseil municipal de la jeunesse, qui permettra certainement de nous ouvrir d'autres perspectives dans notre réflexion, parce que chaque candidat, comme je le disais, a sa culture, on est de générations différentes. Je n'ai pas la prétention, moi, à titre personnel, de savoir quelles sont les attentes les plus fines et les plus précises de ces personnes. Je pense que c'est important de l'identifier. Et d'autant plus que je reviens par rapport aux conseillers délégués de territoriaux pour les quartiers, eux aussi se verront adossés des comités de quartier, avec une composition et qui correspondra bien évidemment aux élus du conseil municipal du quartier concerné, mais également, on pense qu'on fera ça soit par tirage au sort, soit dans le cas d'une réunion publique, des habitants du quartier, de manière à ce que là aussi, on ait un comité qui soit opérationnel, représentatif de la population du quartier, pour être en capacité de faire ce relais entre la population du quartier et la mairie.
Avant l'ultime question de cette interview, un point sur les financements de ce programme avec Olivier Martinez.
Alors, donc, au niveau du financement de notre programme, alors nous avons fait une prospective financière, ça ce sont mes vieilles habitudes de percepteur, d'inspecteur des finances publiques. On s'était donné une enveloppe budgétaire à ne pas dépasser. C'est-à-dire que les propositions que nous avons faites, quand on dit qu'elles sont réalistes et réalisables, c'est parce que déjà la commune a la main pour leur réaliser ces projets et surtout que nous aurons les moyens financiers de les réaliser, ces projets. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on sait qu'il y a des marges de manœuvre au niveau de la ville pour pouvoir faire tout ce qu'on propose. On a beau nous répéter, et ça c'est le jeu de la municipalité en place, qu'il n'y a aucune difficulté, que tout va bien. C'est-à-dire, vous pouvez dire 100 fois un mensonge, la 101e fois, ça n'en fait pas une vérité. La réalité, c'est que cette ville manque de compétences en matière de gestion publique. On a quand même eu quelques errements au niveau de l'élaboration du budget de l'année dernière. On a quand même eu la Chambre régionale des comptes qui a dû intervenir. Nous avons les documents officiels qui le prouvent, contrairement à ce que laisse entendre Monsieur le maire. C'est une réalité et les faits sont têtus. Cette ville a été mise sous tutelle parce que personne n'était en capacité de faire un budget correct. Alors oui, en 2018 également, nous nous sommes interrogés sur un exercice budgétaire qui, au 31 décembre, laissait apparaître un déficit de 450 000 euros. On se demande encore pourquoi on est capable aujourd'hui dans notre ville d'avoir de tels résultats financiers aussi mauvais. Mais ce n'est pas tellement un problème de finances, c'est vraiment un problème de compétences. Quand une ville est bien gérée, quand une ville comme Saint-Sever est bien gérée, il n'y a pas de difficulté à mettre en œuvre un programme politique audacieux comme le nôtre pour les 6 prochaines années. Nous remettrons de l'ordre dans les finances et il n'y aura pas de difficulté pour appliquer le programme qui, je l'espère, nous permettra de pouvoir gérer cette ville ces 6 prochaines années.
Dernière question pour le candidat au municipal de Saint-Sever. Quelle est, selon Olivier Martinez, la priorité pour Saint-Sever aujourd'hui ?
Vaste question.
N'est-ce pas ?
Ouais. La première chose à faire, c'est lui redonner de la sérénité. Lui redonner un peu son âme aussi, parce que je pense qu'elle a perdu son âme. Et la sérénité...
Dans quel sens, perdu son âme ?
Ben, je pense que... Alors, ce n'est pas de la nostalgie, ce n'est pas du conservatisme de ma part, mais j'ai connu Saint-Sever avant 2014, et je connais Saint-Sever après 2014. J'ai connu une ville dynamique, active, qui était connue et reconnue partout, où chaque week-end, il y avait des choses à faire. Cette ville avait une âme. Et voilà, insidieusement, depuis 6 ans, nous avons glissé vers un fonctionnement et une vie un peu plus terne, voilà, que je regrette. Et je pense que rien n'est inéluctable. Et nous pouvons, je pense, si nous sommes élus, repartir du bon pied pour que, comme il y a 6 ans, et je le répète, c'est pas de la nostalgie, je pense qu'on est en capacité de remettre Saint-Sever au centre des animations, non seulement du département, hein, mais au-delà. Et c'est le sens aussi de notre démarche pour réactiver le monde associatif, pour le réconcilier avec la mairie, pour essayer de réactiver des manifestations qui aujourd'hui sont disparues. Manifestations qui ont disparu, certes, mais et qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'ont pas disparu pour des raisons extérieures à la ville, mais uniquement parce que des choix politiques malheureux ont été faits, que je réprouve. Et je considère qu'il faut qu'on soit en rupture avec ces 6 dernières années en la matière et qu'on fasse, non pas comme avant 2014, qu'on fasse différemment, mais toujours dans le même dynamisme et toujours dans la même envie. Et c'est pour ça que les gens qui sont dans ma liste sont pour la plupart extrêmement impliqués dans le monde associatif. C'est des gens qui finalement aujourd'hui se lancent dans l'aventure des municipales, non pas par opportunisme, mais tout simplement pour donner d'une autre manière une partie de leur temps et de leur vie à la ville, après avoir donné pour beaucoup tant et tant au niveau associatif.
Et pour découvrir plus en profondeur le programme de la liste Changeons pour un meilleur cap, rendez-vous sur le site internet saintsevertoutattaché2020.fr ou sur Facebook Changeons pour un meilleur cap. On se retrouve jeudi pour un nouvel épisode de Même pas cap, avec cette fois-ci le maire sortant Arnaud Tauzin, lui aussi candidat au municipal du 15 mars prochain.